La revue de presse, Claude Askolovitch, on parle d'un réveillon ce matin.
Ouais, un réveillon qui sera modeste, allez. Hein. Quelques fruits de mer, une simple raquette, un dessert léger et de bonnes bouteilles. Ils n'iront pas chercher trop loin, ces trois copains de Dreux, avec les retraites de misère qu'on a. Oui, mais misère ou pas, ces trois-là que m'offre l'éco-républicain réchauffe ma matinée. Et voilà donc le maigre Jean Lamy, voilà Alain Fougeret, dit Gugus à la moustache de sous-officier, et Lionel François, ce chauve un peu timide, qui autrefois réveillonnait au foie gras, oui, mais seul. Ils sont l'histoire d'une solitude vaincue que chacun peut aimer, car il suffit, savez-vous mes amis, en dehors de leur île Loire, de cliquer sur l'ordinateur pour lire l'écho dont ces personnages sont des fétiches. Alain et Jean Gugus, on les surnomme les intouchables dans le quartier des Rochelles, où ils vivent dans un pavillon années 30, les intouchables comme dans le film où Omar Sy poussait le fauteuil de François Cluzet. Dans la vraie vie, c'est Jean qui est en fauteuil depuis un accident de voiture. Il a rencontré Alain en 2007, qui n'avait pas de boulot, mais un propriétaire qui voulait le flanquer dehors. Alors Jean a hébergé Alain en échange du ménage et des courses, et puis ces deux-là sont devenus des frères. Et depuis, régulièrement, comme dans un feuilleton, l'écho républicain me raconte leur vie. En 2015, ils avaient dû révisionner en grelottant dans une maison dévastée par une panne de chaudière et ils ne pouvaient pas se laver. Cette année, ils ont rencontré Lionel qui a pris Alain en stop un jour où il revenait des courses. Ils ne seront plus jamais seuls, ces trois-là. Et c'est la plus jolie, dans l'écho républicain, des histoires de chez nous qui fait écho à tout ce qui nous manque souvent, la fraternité. Mais la France n'est pas faite que des amis de Dreux. Je lis dans Le Monde que des malins font profit de la solitude des hommes. C'est une enquête sur des numéros surtaxés que des personnes en détresse psychologique confondent avec SOS Amitié, association reconnue, subventionnée, qualifiée, mais qui manque de main-d'œuvre et ne prend qu'un appel sur trois. Alors des entreprises ont investi ce créneau de l'aide téléphonique aux suicidaires. Et les suicidaires, dans leur détresse, écoutent à peine le message qui les avertit de la surtaxe et se retrouvent ensuite avec des notes téléphoniques qui ajoutent à leur détresse. Un jeune homme qui avait vraiment besoin de temps pour parler a eu 400 euros de facture de téléphone. Souvent, les personnes suicidaires vivent également d'une allocation adulte handicapé ou du RSA. Ils sont pauvres et ils sont des proies. C'est dans Le Monde qui interroge le patron d'une de ces entreprises. Il assume tout, il est référencé sur Google, évidemment.
On nous parle d'un réveillon, donc. Claude, on nous parle aussi d'une ville ce matin dans la presse.
Une ville en sursis qui bientôt ne sera plus une ville et dont le nom pourtant fut de l'histoire. Château-Chinon dans la Nièvre, jadis cité de François Mitterrand où il a appris le 10 mai 1980 qu'il serait notre président. Château-Chinon qui n'avait plus que 2001 habitants en 2016, soit un de plus que la barre fatidique des 2000, en dessous de laquelle, pour les statistiques, nous ne sommes plus une ville. C'est dans le journal du centre. Château-Chinon perd 70 habitants par an. Mais le journal du centre n'en fait pas des tonnes, il a d'autres soucis, car toute la Nièvre décline. Nevers, Cône, de Cise, Fourchambault, Clamecy, quel beau nom dépérisse. Aucun département français n'a fait pire que la Nièvre entre 2011 et 2016. Et c'est terrible à lire ce matin de recensement où les journaux des territoires qui progressent affichent leur joie comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. La Côte d'Or gagne des habitants, le bien public. L'Aube gagne encore des habitants, l'Est est clair. La dynamique alsacienne, les DNA, 6 millions de néo-aquitains. Sud-Ouest, toujours plus nombreux, le progrès. En face, les journaux des terres en déclin se montrent discrets en une et fatalistes. Ça continue encore et encore, dit le journal du centre devant sa carte de la Nièvre. À sa une pourtant, ce journal résiste et parle de courage, celui des ouvriers de Aizen Industrie France à Nevers, un équipementier pour l'automobile qui amène ses travailleurs à travailler de nuit. On y gagne de la liberté, nous le savons dans cette matinale, mais nous le savons aussi, ce n'est bon ni pour la santé, ni pour le couple. Dans le Cher, qui se dépeuple aussi, le béret républicain se console avec des femmes sublimes qui souvent font la une du journal, les tangos, basketteuses du Bourges Basket, championne de France pour la 14e fois, aucun club n'est aussi titré désormais. Exit les demoiselles de Clermont, qui furent une légende au temps où Château-Chinon était à Mitterrand. On rencontre aussi dans le béret républicain un enfant du pays devenu familier des grands de ce monde, Hervé Pierre, qui était le fils d'un aubergiste de Saint-Satur, qui grandissait en rêvant aux belles dames du Sancerrois qui dînait chez ses parents, et il dessinait des robes quand il avait 6 ans. Il est le couturier, le styliste en vue des Amériques, il a habillé les épouses de 4 présidents américains, désormais Melania Trump. La première dame m'a envoyé un message, elle est au courant de ce qui se passe ce soir, dit-il, car sa ville de Saint-Satur l'honorait. Voilà donc Saint-Satur sur la carte du grand monde et dans dans la tête de Madame Trump et Madame Trump sujet d'admiration. Est-ce étrange ce jour où le New York Times, entre autres avanies, sort une nouvelle affaire Trump. Le journal a retrouvé le nom d'un podologue qui était logé dans les années 60 par le papa de Donald et qui, par un certificat de complaisance, lui aurait évité la guerre du Vietnam. Sinon, Hervé Pierre porte ma foi un saignant gilet jaune, pas le même on se doute que l'autre dont on parle souvent.
Allez Claude, il nous reste une minute pour parler encore des gilets jaunes.
Dans La Croix, qui est un journal d'espérance et qui veut croire qu'ils seront ces gilets jaunes le ferment d'une nouvelle démocratie. Dans Ouest France, qui me dit qu'ils sont ces gilets jaunes près de Nantes, ce qui guérit de la solitude. Annie qui a retrouvé le sourire quand des automobilistes lui ont donné des bonbons. Estelle qui a dansé un soir de Noël sur un rond-point et a échappé de son enfermement entre son beau-frère handicapé, son mari et ses trois enfants. Kevin et Christophe qui, rencontrés sur les barrages, sont devenus amis et vont faire la route ensemble pour aller au Québec. Ouest France a du mérite qui n'a pu être distribué hier dans la région de Nantes, justement, bloqué par des gilets jaunes fâchés que le journal ait signalé des dérives, notamment antisémites du mouvement. Ils ne sont pas antisémites, ces gens-là, tant mieux, mais pas encore vraiment démocrates. Quand la presse est concernée, ils feront peut-être des progrès. Le Parisien fait de la politique et pense que ces gilets jaunes serviront le président Macron en perturbant le jeu des européennes. Mais le président rival, Xavier Bertrand, qui face aux lecteurs de La Voix du Nord, ne parle que d'aide, de proximité, de choses concrètes. C'est un métier.
C'est un métier, la revue de presse. Quand on a bien travaillé, Claude, on part en vacances.
On part en vacances.
À dans 10 jours sur l'antenne de France Inter.